débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du numéro de cette semaine, la folle facture au regard des programmes du RN et du nouveau Front Populaire. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Christian Parizeau, économiste, conseiller auprès d'Aurel BGC. J'ai cet auditeur qui me dit, où est-ce qu'il est Guillaume, Joris. Il me dit, voilà, vous ne dites jamais que l'assurance chômage est à l'équilibre. Alors, en ce moment, elle est effectivement à l'équilibre, parce que le chômage a reculé. Il y a quand même plus de 55 milliards de dettes dans les caisses, bien structurelles dans les caisses de l'UNEDIC.
Enfin, du dette qui recule, parce que...
Oui, elle était à 65 et on est tombé un peu au-delà de 55. Comment se fait-il que la Bourse de Paris est si bien, Christian?
Non, alors après, il faut reconnaître qu'on évince un scénario extrême qui aurait été une victoire assez large du nouveau Front Populaire. L'extrême gauche fait plus peur au marché que l'extrême droite, vu le programme et vu les risques de taxation que ça pouvait engendrer. Donc il y a un aspect déjà purement, on évite un des scénarios. Après, dans le scénario central aujourd'hui, c'est plutôt un scénario de cohabitation. Alors, est-ce que ça sera RN plus une partie de la droite ou est-ce que ça sera une coalition assez large qui irait de la droite au PS? Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on a le sentiment, et c'est pour ça que j'ai tant insisté tout à l'heure sur le fait, attention, l'absence de réforme en France n'est pas une bonne nouvelle, parce que le marché, je pense, a tendance à se dire, bon, finalement, même si c'est une victoire du RN, ils n'auront pas forcément la majorité absolue. En tout cas, il y a une très faible probabilité qu'ils aillent aujourd'hui la majorité absolue. Et dans ces conditions-là, ils seront forcément obligés de faire au moins une coalition, ou alors ça sera une coalition plus large qui sera au pouvoir. Et donc, on aura forcément une application d'un programme économique plutôt édulcoré qui ne va pas forcément tout chambouler aux yeux des marchés. Donc, c'est plutôt cette réaction de soulagement qu'on peut avoir sur les marchés. C'est pour ça que je pense que, d'une part, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est les marchés obligataires qui vont donner la tendance sur les marchés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui a été soulevé avec la France et c'est pas fini. Parce que je pourrais faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé aux États-Unis vendredi. C'était aussi très intéressant, la réaction du marché obligataire américain. Mais aujourd'hui, le marché obligataire va donner la tendance. Parce qu'aujourd'hui, on a la perception qu'il y a quand même un risque sur les finances publiques mondiales. Et la BRI l'a rappelé hier. Donc, il y a un risque.
La Banque des règlements internationaux.
Voilà, il y a un risque sur les dettes des États. Et il va falloir que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, soient crédibles. Et l'autre part, ce que je vous disais, c'est que la France, c'est pas fini. Et même si on a une coalition, entre guillemets, on va juger mesure par mesure. Et c'est pour ça que moi, je pense que la vraie volatilité sur les marchés obligataires, elle va être plutôt en septembre, quand on commencera à boucler le budget, qu'on verra les vrais, ce qui est mis en prêt. Alors, c'est vrai que si on a une coalition et qu'on n'abolit pas la réforme des retraites, où on l'a fait de manière marginale, ça va rassurer les marchés parce que c'est une des mesures les plus coûteuses. Donc on se dira, on a évité ça. On verra ce qui sera fait in fine sur les baisses de fiscalité, notamment sur la TVA, sur les carburants. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc le marché n'anticipe pas pour l'instant et se dit que finalement, s'il y avait une large victoire du RN, on pouvait dire ils vont appliquer leur budget, leur plan comme ça. Là, ils vont devoir l'édulcorer. Donc on se dit qu'on évite le pire. Mais attention quand même, attention encore une fois, il y a un vrai problème aujourd'hui des finances publiques au niveau. Juste un petit mot sur les États-Unis.
Allez-y.
C'était intéressant vendredi parce que vous savez que M. Biden a complètement raté son débat avec M. Trump.
C'est chaud.
À tel point que les démocrates
cherchent un plan B.
Mais il y a eu pas mal de notes de mes confrères américains qui ont commencé à dire on va regarder le programme de M. Trump. Et ils ont commencé à dire attention, le programme de M. Trump est très inflationniste. Et on avait eu une réaction très positive du marché obligataire à un indicateur. On était tombé sur des taux américains qui étaient tombés à 4,26. Et sur ces stratégistes américains qui ont mis en alerte en disant attention, la Banque Centrale Américaine va beaucoup moins baisser ses taux, elle va être prudente, le programme de M. Trump est très inflationniste, ça pourrait relancer aussi le coût de la dette, il y a un programme budgétaire aux États-Unis. Pas mal de warnings autour de ça, ça a fait remonter les taux américains de 4,26 à 4,40. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif. Et ça a complètement inversé la tendance. Alors c'est un épiphénomène, c'est sur une séance, je vous dis pas que c'est la fin du monde. Mais ça montre que quand même, il n'y a pas qu'en France qu'on s'interroge sur les déficits publics, il n'y a pas qu'en France qu'on s'interroge sur les politiques économiques. Et quand on fait des politiques économiques qui peuvent véritablement traduire des instabilités économiques à venir, on voit que les marchés réagissent très violemment. Et encore une fois, les taux américains, s'ils commencent à prendre encore 20 BP, 30 BP, 30 centimes, 0,30% sur les prochaines semaines, je peux vous dire que la bourse américaine va commencer à réagir. Donc il n'y a pas qu'en France qu'on a cette problématique-là. Et retenez que c'est les marchés obligataires qui vont faire la tendance cet été et la crédibilité qu'auront les hommes politiques dans leur politique économique autour de ça.
C'est vrai que la BRI, vous le rappeliez, dans son rapport économique annuel publié hier, elle met en avant un risque de perte de confiance des marchés obligataires. Elle ne parle pas de la France, hein, précisément, elle parle des marchés obligataires.
Oui, parce que le problème en Allemagne pourrait être aussi... On voit avec la montée des extrêmes en Allemagne aussi. Enfin, on voit que ce n'est pas qu'un problème purement français. Oui,
moi, réaction, Gaëlle Mac, allez-y.
Pour cette histoire des marchés financiers, je trouve que par rapport aux électeurs qui votent souvent par émotion et également sur des valeurs et imparfaitement pour leurs intérêts, par contre, les marchés financiers, eux, ils votent complètement pour leurs intérêts. Et donc, je pense que ces derniers temps, on a un peu joué à se faire peur avec cette histoire du programme du Nouveau Front Populaire, puisque dans les sondages, le Nouveau Front Populaire n'a jamais été en situation de former un gouvernement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas particulièrement de surprise des résultats du Nouveau Front Populaire par rapport à ce qui était prévu. Jamais ils ont été véritablement placés. On n'a jamais pensé réellement qu'ils allaient pouvoir être en mesure de prendre le pouvoir. Mais pour autant, on les a toujours, et ça c'était un peu aussi l'effet recherché par le gouvernement, mis dos à dos, mis leur programme dos à dos, comme si chacun d'eux était en mesure de prendre le pouvoir demain. Alors que bon, clairement, celui qui est en mesure de prendre le pouvoir, c'est le Rassemblement National. Or, le Rassemblement National a été assez rassurant, je pense, dans sa campagne pour les investisseurs et les patrons, etc. Beaucoup de gens dans le business font référence à Giorgia Meloni et à l'Italie en disant finalement, l'économie italienne va bien, le patronat italien est ravi, donc il peut y avoir une personne d'extrême droite, entre guillemets, qui est élue sans que ce soit le cataclysme économique. De leur côté, le Rassemblement National n'a cessé de donner des gages depuis une semaine. Une mesure qui est mise à l'encan chaque jour.
Donc, c'était impressionnant quand il a fait son grand oral avec d'autres, devant le patronat à la
MEDEF. Puis il prépare les esprits en disant on va faire un grand audit financier. Alors je le conseille de lire des rapports de la Cour des comptes ou du Haut Conseil des Finances publiques. Hein, l'audit, il existe déjà. Les chiffres ne sont pas cachés. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt à destination de ton électorat pour dire attention, on va découvrir que finalement les finances de la France sont au plus mal et que donc
c'est vrai qu'il y a
devant l'urgence on va être obligé de reculer.
Quand il était devant le MEDEF, justement, c'était à la salle Gaveau, je crois. Vous y étiez, Éthique était là. Vous avez connu Éthique par le passé, mais vous connaissez bien les sphères patronales. Il est arrivé, je me souviens, avec 6 points Jordan Bardella, c'était super carré, c'était super pro-business. Probablement pour dire aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre. Alors après, vous avez vu toutes les postures patronales anti-extrêmes, évidemment, mais off, ils admettaient tous que c'était le nouveau Front Populaire qui leur faisait vraiment peur, beaucoup, beaucoup plus sur le terrain
parce
économique.
Parce qu'eux regardent bien leurs intérêts.
Mais comme par ailleurs, le Rassemblement National, je pense, incarne une volonté d'ordre, et après, les propositions économiques viennent quasiment en plus, et la volonté qu'ils ont affichée de rassurer fait que tout ce qui peut inquiéter de près ou de loin, tout ce qui peut bouleverser la bourse ou les grands équilibres a été effectivement, comme vous le dites, mis à l'encan. D'ailleurs, c'est finalement aussi la preuve que ce n'est pas sur les propositions économiques qu'il a réussi à être le premier parti de France. D'ailleurs, cette question de l'ordre est aussi une question pour laquelle il serait bon que les partis de gouvernement entendent cette volonté. C'est aussi une volonté des chefs d'entreprise et du monde économique qu'il n'y ait pas une sorte de climat d'insurrection tous les matins dans notre pays. Les milieux économiques sont aussi attentifs à cette exigence-là.
Est-ce que vous achetez, puis après on dira un mot de l'inflation, la théorie selon laquelle, devant les enjeux budgétaires des 4 prochaines années, Emmanuel Macron a voulu éviter l'obstacle en se disant c'est ingérable, c'est infaisable, on ne l'a jamais fait dans l'histoire, 100 milliards à trouver en 4 ans. Allez, je rends la patate chaude à quelqu'un d'autre.
Mais il est clair que
Et qu'en fait, ce serait peut-être l'un des éléments explicatifs du choix de dissoudre l'Assemblée nationale.
Écoutez, je ne sais pas si ce choix-là et cette question-là a pesé davantage que les autres, mais c'était le début de notre matinale, on est devant un ensemble de défis face auxquelles les réponses politiques ont du mal à calibrer des remèdes efficaces. les tenants de la majorité précédente comme ceux qui y ont postulé. Mais l'ampleur des défis, elle est sur les déficits, ça rend tous les autres défis compliqués à gérer.
100 milliards en 4 ans.
Oui, 5 milliards en 4 ans. Enfin, mais le fait est qu'on s'est mis un ensemble d'interdits également. Il y a des propositions qui ont été faites sur de la TVA sociale. On n'y réfléchit pas. Enfin, on est sur une équation qui est extrêmement exigeante, mais dont on a restreint tous les paramètres en se mettant énormément d'interdits. Mais c'est le cas pour cette majorité comme pour tous ceux qui ont candidaté hier.
Parce que la certitude de beaucoup quand ils voient ce genre de chiffres, donc c'est un chiffre qui vient de l'Institut Bruegel, qui a été calculé, et puis qui est également repris par Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz, que vous connaissez bien, qui vient souvent ici. On se dit comment on peut boucler une équation aussi impossible en évitant les hausses d'impôts. Enfin, franchement, il y a un moment...
Cas, je ne sais pas, je pense que ça serait s'avancer de dire qu'il avait vraiment fait un refus d'obstacle. En tout cas, il y avait certainement une manœuvre politique quand même, qui était, on est dans un temps qui est un peu 2 ans et demi avant la présidentielle, et donc quand même, il faut voir qu'une large partie des électeurs ont toujours comme motto... Le Rassemblement National, c'est le seul qu'on n'a pas essayé.
Oui, ça,
donc,
essayons.
Je veux dire, finalement, c'est les seuls dont on n'a pas prouvé qu'ils étaient inefficaces, etc. Donc, finalement, leur donner le pouvoir, là, pour 2 ans, dans une situation extrêmement économique, extrêmement contrainte, est-ce que c'est une manœuvre pour les mettre à l'épreuve du feu ?
Ils n'arriveraient plus avec des promesses, mais un bilan, voilà. Et là, c'est plus compliqué.
Et voilà, et cela donc dit, pour 2027, arriver déjà avec un bilan...
Mais je voudrais revenir à notre bilan. Le projet du gouvernement, c'était de dire, on va aller vers le plein emploi. Le plein emploi va faire rentrer des cotisations, et grâce aux cotisations, on va rembourser nos dettes. Ce modèle-là, on l'achetait collectivement, en tous les cas, dans le monde économique. Nous devons quand même reconnaître qu'on n'y est pas. Enfin, moi, je l'admets totalement. Oui. Ce modèle-là me convient, sauf que les résultats ne sont, à l'évidence, pas suffisamment satisfaisants, que l'engouement pour reprendre le travail n'est pas suffisant, la quantité de travail dans notre pays n'est pas suffisante, et on dirait que tous les leviers que le gouvernement a essayé d'actionner pour amplifier ce mouvement, eh bien, n'ont pas donné les résultats attendus. C'est aussi, d'ores et déjà, le bilan d'une politique qui a été menée. Elle ne peut pas continuer à être menée avec une nouvelle coalition sans tirer un tout petit peu les leçons du fait que le compte n'y est pas. Enfin, je pense que...
Oui, bien sûr.
Moi, je pense qu'on a sous-estimé les aspects sociaux. Oui. Clairement, ce qu'on a sous-estimé, je pense, et ça on le voit à travers les données d'enquête auprès des ménages, c'est que les Français ont été autant affectés par l'inflation que les Allemands, par exemple, ou que d'autres pays européens, alors que l'impact a été beaucoup plus lissé en France, notamment à cause de l'indexation du SMIC, et notamment les bas salaires ont, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas souffert, mais ont beaucoup moins souffert que par rapport à d'autres pays de la zone euro. Et pourtant, quand on voit les enquêtes, les données d'enquête, ça s'est autant dégradé en France que dans d'autres pays. Donc ça montre qu'il y a eu une perception des Français, et ça, je pense qu'on peut mettre à ça du gouvernement. Je pense que le gouvernement a mal géré. Alors peut-être en termes de com, parce que c'est plus un problème de com, puisque dans la réalité, la France a plutôt mis en place des éléments qui ont plutôt atténué le choc inflationniste, mais en tout cas, ils n'ont pas su communiquer là-dessus, et ça, c'est un réel problème. Et puis, deuxième chose qu'on sous-estime aussi, c'est que là, on est sur une amélioration. Bah, on devait parler justement de l'inflation.
Ah oui,
on voit que l'inflation revient à 2-1. Enfin, le choc inflationniste est en grande partie passé. Il y aura toujours un peu de volatilité sur l'inflation, mais on ne reviendra plus dans ce qu'on a connu. Et donc, c'est clair que le choc sur le pouvoir d'achat est passé, parce que maintenant, on va avoir des salaires qui vont progresser cette année en moyenne, et ça va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit et ce qu'on constate quand on creuse un peu les données de l'INSEE, c'est qu'il y a vraiment encore des perdants aujourd'hui de l'inflation et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous regardez, c'est pas les gens qui sont au SMIC, qui sont les perdants, ce sont les travailleurs indépendants. C'est les petits commerçants, c'est les professions intermédiaires qui, alors en gros, vous avez une amélioration du pouvoir d'achat sur les hauts salaires, les cadres, une amélioration du pouvoir d'achat qui va y avoir sur les salaires au salaire minimum, et puis vous avez une dégradation de la situation de la classe moyenne, pour faire simple, pour faire gros, et essentiellement surtout sur les non salariés, les professions libérales intermédiaires qui souffrent encore énormément et qui n'ont pas d'effet de rattrapage. Et je pense que ça, on l'a sous-estimé énormément. énormément, parce que nos statistiques moyennes montrent que le pouvoir d'achat des Français s'améliore, mais avec une grande dispersion. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui encore cette thématique de l'inflation, cette thématique du pouvoir d'achat qui reste centrale, mais pour une partie de la population, et je pense que le RN était très fort sur la population qui avait les plus bas revenus, et il est monté sur la classe intermédiaire, et c'est ça qui fait sa victoire. Mais parce que justement, cette classe intermédiaire, elle souffre encore sur son pouvoir d'achat, alors qu'en moyenne, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Donc ça aussi, ça nous interpelle.
Mais vous avez
toujours
raison,
attention aux dispersions, toujours attention, la moyenne ne nous dit pas tout. L'enseignement qu'on a, c'est un effet dispersion,
d'autant
à mon avis, qui joue énormément.
Raison qu'il y a une forme de tendance à dire, on a pourtant fait le job et les Français ne nous sont pas reconnaissants. Je pense que la frustration qu'ils expriment est une frustration qu'il faut entendre et aller détecter où, effectivement, les choses ont dérapé. C'est absolument essentiel. Si on continue de dire on a tout fait parfaitement et c'est juste les Français qui ne sont pas reconnaissants ou qui ne regardent pas à quel point on est bon, je pense que l'on est vraiment à côté d'abord d'une règle démocratie minimale. Il faut quand même écouter le pays avant de prendre soi-même des décisions. Et ensuite, on va pas apporter les correctifs nécessaires. Il faut que les partis de gouvernement soient capables d'apporter des correctifs à ce qu'ils font pour que ces contestations des deux extrêmes puissent revenir dans leur lit. Enfin, c'est une nécessité, mais je pense que ça nous interpelle, nous, qui étions plutôt favorables à la politique qui était menée, autant que les gouvernants.
Et c'était l'idée des baisses d'impôts sur les fameuses classes moyennes, ce que vous décrivez. Et puis, l'idée un peu du discours de politique générale de Gabriel Attal. Cette esmicardisation.
La question du différentiel entre le salaire brut et le salaire net reste un élément essentiel. Si on ne le traite pas, il faut qu'on le traite. Voilà.
Donc, je pense que globalement, la montée des extrêmes dans pas mal de pays s'explique aussi pour des raisons en partie économiques, si je dois donner mon explication d'économiste, parce qu'on a une croissance qui est post-Covid, qui a été en cas, avec des secteurs qui s'en tirent très très bien et d'autres secteurs qui souffrent énormément et qui ne sont pas repris. Et donc, du coup, on a véritablement des perdants et des gagnants, même au niveau business. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que ça joue dans la perception des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une activité dans laquelle vous n'avez pas la capacité de remonter les prix, dans laquelle les salaires sont sous pression, alors si vous avez un SMIC, du coup, vous étiez légèrement payé autour du SMIC, mais comme l'activité n'est pas bonne, votre patron ne vous en demande pas et ne répercute pas les hausses de SMIC, et donc vous vous retrouvez au SMIC, ça, c'est parce que vous êtes dans une activité qui est pénible et qui s'est pas redressée. Et donc, ce qu'on n'a pas assez pris en compte, et ça, c'est un mea culpa pour les économistes, c'est que derrière les chiffres d'amélioration économique, on a eu des vraies divergences économiques entre les secteurs, entre les activités, et ça crée véritablement aussi des tensions sociales qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la France n'est pas un pays dans lequel on redistribue pas. Il faut quand même le rappeler. Tout le monde est d'accord là-dessus, objectivement, quels que soient les...
Bien sûr.
Et pourtant, on a l'impression que les Français nous envoient le message en disant la situation a empiré, on a eu des écartements de richesses énormes. Mais je pense que ça tient aussi en partie à l'économie, à cette reprise qui est très atypique et très inégalitaire.
L'immense mérite de Christian Parizeau, c'est d'être un économiste qui est prêt à faire des mea culpa. Ils sont vraiment rares pour le souligner.
Gaël, vous voulez réagir?
Oui, moi, paradoxalement, je serais moins sévère, à vrai dire, envers la politique pro-business et ses effets, parce que je pense quand même qu'il y a eu, comme souvent, c'est ce qui se passe en politique. Il y a la politique d'Emmanuel Macron qui avait quand même fonctionné entre 2017 et 2021, c'est-à-dire que effectivement on avait baissé le chômage et les finances publiques commençaient à tirer profit d'une croissance qui était un tout petit peu meilleure, un peu plus ravigotée, etc. Bon, depuis il y a eu quand même le Covid et la guerre en Ukraine et cette inflation qui est devenue très forte, ça n'a pas été qu'en France, c'est assez difficile à contrer quand même pour un gouvernement. Je veux dire, il n'y a pas de mesures immédiates qu'on puisse prendre fortes et pas chères, puisque c'est quand même aussi notre problème, qui puisse contrer cette question. Or, quand on regarde par exemple la progression du Rassemblement National, c'est-à-dire en nombre de voix, il faut quand même voir que on était à 3 millions de voix en 2022, on était à 7 millions aux européennes et on est à 10 millions maintenant. Ouais. C'est-à-dire que ça a été quand même très très rapide. Et vraiment, sur cette fin sur cette dernière année, je pense que cette explication sur l'inflation, en plus de d'autres facteurs beaucoup plus politiciens et beaucoup plus émotionnels probablement, mais je veux dire, a complètement planté, si je puis dire, le bilan de Macron. Je veux dire, le bilan d'Emmanuel Macron a été planté par cette poussée d'inflation depuis deux ans, plus peut-être un mauvais calibrage des aides Covid qui ont quand même aussi plombé la dette.
Peut-être aussi, me semble-t-il, le fait qu'en contrepartie de quantité de cotisations, on a un certain nombre de prestations qui sont gratuites dans notre pays. Et cette gratuité, le modèle de la gratuité comme contrepartie aux cotisations, au bout d'un moment, les Français voient ce qui est gratuit comme une donnée en soi, et ne voient pas le fait que c'est la contrepartie des cotisations qu'ils versent. Et donc, c'est quelque part, on s'est habitué à ce que les choses soient gratuites, et je pense que ça délite un peu le consensus que nous pouvions avoir sur un modèle social. Il me semble que nous devons nous poser ces questions-là, parce que si sinon, on n'arrivera pas à, j'allais dire, rattraper l'écart entre ce que les partis de gouvernement proposent et ce que les extrêmes expriment comme frustration dans notre pays.
Rapport qui a été remis au maire de Londres sur le Brexit. La facture du Brexit, c'est très impressionnant. Le rapport a été commandé il y a quelques mois. Il a donc été remis au maire de Londres. La facture, depuis 8 ans, est estimée à 170 milliards d'euros. 2 millions d'emplois perdu à tous les niveaux de qualification et une croissance du PIB 4 fois moins dynamique en Grande-Bretagne que dans le reste de l'Union européenne. Waouh ! Et ça vous a intéressé, ce sujet, Gaëlle ?
Oui, parce que je trouve que c'est un bon exemple de la différence entre la froide réalité des statistiques économiques et la perception que peuvent en avoir les citoyens sur le terrain. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait des sondages au Royaume-Uni, il y a une petite majorité qui dit que finalement serait contre le Brexit.
C'est vrai, on est même pas à 55%.
Voilà, bon, alors il y a certes une propension, je pense, importante de gens qui répugnent à faire un mea culpa en général dans la vie, ça c'est possible, mais je veux dire, il n'y a pas non plus la perception sur place que c'est cataclysmique, que ça a été catastrophique. Bon, quand on lit par exemple ce qui s'est passé à la City de Londres, dans les faits, sur 8-10 ans, elle a perdu 1 million d'emplois, elle a perdu environ 10%, si j'ai bien compris, de l'ensemble des actifs, etc. Mais ça n'a pas non plus... Elle reste la troisième place financière au monde, devant...
Passer devant Paris il y a une quinzaine de jours.
Voilà, devant l'Europe, exactement, et devant Paris.
Sur un indicateur.
Mais donc, ce n'est pas non plus... C'est pas quelque chose de perceptible à l'œil nu. On ne voit pas les immeubles entiers se vider, le quartier devenir un désert, etc. Et donc, dans l'esprit des gens... C'est un poison lent et je pense que c'est exactement ce qui peut se passer en France quand des mauvaises décisions politiques sont prises ou que des partis qui n'ont pas une grande crédibilité économique ou qui ne mènent pas une politique économique très intéressante et très pertinente sont au pouvoir, c'est-à-dire que il ne se passe pas de catastrophe. Voilà, il ne se passe pas de catastrophe, il se passe juste que la situation empire petit à petit, voilà.
C'est une dégradation progressive.
Mais largement sous-jacente.
Il faut dire aussi que toutes les mesures post-Covid ont quand même atténué en grande partie le choc pour le Royaume-Uni, parce que ça arrivait à un moment où on a eu quand même pas mal de mesures du soutien public. Mais regardez aujourd'hui, les finances publiques, elles sont sous la surveillance des marchés obligataires. Et vous voyez bien que même s'il y a une alternance, c'est ce qui était cité au tout début, même en cas d'alternance politique, maintenant les Anglais ont compris qu'au moindre mot de travers, le marché obligataire anglais allait surréagir. Et cette surveillance obligataire limite énormément l'action politique derrière. Et ma crainte, c'est ça qu'on va avoir. C'est-à-dire que derrière, c'est qu'on va avoir, dans beaucoup de pays, une surveillance des marchés obligataires. Alors, vous en pensez ce que vous voulez, mais quand aujourd'hui, pour payer vos fonctionnaires, vous êtes obligé d'aller emprunter de l'argent, eh ben, vous n'êtes pas le choix. Vous êtes obligé de répondre aux exigences de ceux qui vous prêtent. Et le vrai problème, c'est que là, vous avez un vrai problème, c'est que les marchés, en effet, vont décider à la place des politiques. politique et vous avez une perte de pouvoir de l'électeur, puisque quel que soit le politique à terme, ça sera les marchés qui décideront de ce qu'il faut faire. Donc
l'économie se vend.
Voilà, l'économie se vengera, à mon avis. Et je dirais juste un petit mot, oui. À titre perso, je regarde beaucoup les taux anglais et je m'aperçois qu'ils sont restés énormément plus volatiles depuis ce qui s'est passé en Angleterre. Et donc, il y a vraiment, vraiment, quoi qu'il se passe au niveau politique intérieur, il y a vraiment une prime de risque qui s'est mise sur les taux anglais. Et ça, on ne revient pas dessus rapidement
depuis
et on le paye
très longtemps.
Depuis l'Istros, les taux anglais sont beaucoup plus volatiles.
Et je trouve que c'est aussi un excellent avertissement envers les partis qui sont anti-européens ou le retour d'une tentation éventuelle de sortir de l'Europe qui pourrait découler de certaines mesures ou de certaines postures, parce que la France est très protégée par le fait d'être dans la zone euro. Et justement, par rapport à la surveillance des marchés obligataires, je veux dire, la France bénéficie d'une mansuétude quand même vraiment forte de la part des agences de notation, voilà, et des... Je veux dire, alors que le Royaume-Uni, lui, il a eu un coup de bâton immédiat avec le programme de Liz Truss, par exemple. Elle a été obligée de démissionner moins d'un mois après avoir pris son poste parce que on ne lui passe rien. Donc le fait d'être sorti de l'Union européenne pour le Royaume-Uni fait que voguer tout seul par ces temps compliqués avec des finances publiques dans le rouge, ce n'est pas un sort très enviable.
On va terminer 1:10. Là, j'ai un auditeur qui s'appelle Joël qui me dit l'inflation revient. On venait de dire justement, Christian, qu'on était quand même en période de désinflation.
Oui, alors attention, il y a perception peut-être de l'inflation et l'inflation...
2,1%
voilà, mais aujourd'hui, alors sur les derniers chiffres de l'INSEE, sur le panier de l'INSEE qui est représentatif, actuellement, on ne peut pas dire que l'inflation revient. Elle peut être un petit peu volatile, il y a des effets de base, des choses comme ça qui font que je ne vous dis pas qu'on ne va pas remonter un petit peu dans les prochains mois, mais ça restera une volatilité limitée et on va voguer autour de 2, de 3 à mon avis dans les prochains mois. Donc on ne peut pas dire que c'est une vraie inflation qui reviendrait et qui s'auto alimenterait comme on a pu le craindre il y a encore quelques mois.
Merci à vous trois. La facture folle à la une de Challenge, à la lecture des programmes du RN et du Nouveau Front Populaire. Merci Gaël Mac, merci Christian Parizeau, Leonidas Kalogiropoulos. Rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.